pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Chez Samuel Sandler, père de Jonathan Sandler, grand-père de Gabriel et Ariel Sandler, victime de l'école Ozar Hatorah à Toulouse le 19 mars 2012.
Monsieur le Président de la République, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, diplomatiques, militaires et religieuses, mesdames et messieurs, chers amis. Comme les garçons de ma génération, je suis né peu après-guerre. Enfant, je jouais aux soldats de plomb. Parmi eux, figurait un horse guard rouge. Mes parents m'avaient demandé d'en prendre plus particulièrement soin. Il avait appartenu à mon cousin, Jeannot. Jeannot habitait Sainte-Adresse, près du Havre, avec ses parents et ma grand-mère Pauline. Un matin de mars 43, la famille est arrêtée. Jeannot, 8 ans, est conduit d'abord à Drancy, puis vers l'endroit où, selon la formule de Malraux, l'homme donne des leçons à l'enfer, à Auschwitz-Majdanek. Les années durant, l'arrestation, la déportation de Jeannot ne quittait pas mon esprit. Mais la guerre était passée, la République rétablie. Il n'y avait de meilleure protection et de rempart face aux crimes racistes que l'idéal républicain inscrit au fronton des établissements publics et des écoles, liberté, égalité, fraternité. Il y a de cela 6 mois, jour pour jour, ces valeurs de notre République ont été bafouées dans le sang et la boue. Ce lundi 19 mars, vers 8 heures, un coup de fil de ma belle-fille Eva m'annonce l'assassinat de Jonathan, mon fils, et de ses 2 enfants, Harry et Gabriel, ainsi que la petite Myriam Monsonego. Tous les 4 attendaient la navette devant conduire les petits à leur école. L'impensable s'est à nouveau produit. En France, à Toulouse, les enfants sont assassinés en pleine rue parce que juifs. Ils croyaient avoir le droit de vivre. Plus tard, on apprendra que l'assassin n'en était pas son premier crime. Il avait quelques jours plus tôt abattu de sang-froid 3 soldats, Mohamed Leguad, Abel Chenouf et Imad Ibn Zlaten. Je passerai le reste de mes jours à m'interroger sur les derniers instants de leur vie. Cette interrogation sans réponse constitue une souffrance que je ne souhaite à personne. Avril était vite arrivé, les 6 ans d'Arié jamais fêtés. Dans une 15 jours, nous nous serions tous retrouvés autour de Gabriel, comme nous l'avions fait l'an passé pour ses 3 ans. Peut-être soufflera-t-il sa 4e bougie, entouré de Jonathan, Arié et Jeannot, dans un monde meilleur. Puisse cette cérémonie du 19 septembre, ici aux Invalides, devenir celle du souvenir, de la mémoire et jamais plus du témoignage. Plus jamais ça, répétions-nous après la Seconde Guerre mondiale.
Ainsi parlait Samuel Sandler le 19 septembre 2012 aux Invalides à Paris, à la suite de Latifa Ibn Ziaten, la mère d'Imad, le premier des militaires tués par Mohamed Merah, et de M. Chenouf Meyers, père d'Abel, seconde victime de la tuerie de Toulouse-Montauban, avant le discours final du président de la République à l'époque, François Hollande, lors de ce rendez-vous commémoratif à l'appel de l'Association française des victimes du terrorisme. Ainsi parlait le père et grand-père de 3 des 4 victimes de l'école Ozar Hatorah le 19 mars 2012, sous le feu de Mohamed Merah et les cris d'Allahu Akbar. 7 mois plus tard, à Toulouse, en octobre 2012, nous sommes retournés sur les lieux du drame en compagnie de Latifa, la mère d'Imad, qui se bat pour que son fils soit reconnu mort pour la France. Puis nous nous sommes rendus à l'école Ozar Hatorah, qui veut dire le trésor de la Torah, avec des parents d'élèves présents le jour du massacre. Et la question est toujours la même, comment vivre après? Comment survivre? Que faire? Comment agir pour combattre le terrorisme et l'antisémitisme? Pour défendre la paix, qui sait, pour que cela ne se produise plus jamais. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture. C'est notre retour sûr du vendredi, rediffusé à l'occasion du procès du frère de Mohamed Merah, Abdelkader, qui s'est ouvert le 2 octobre et durera 1 mois.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Là, on est juste dans la rue de l'école. On est au début de la rue Jules Dallou. Et c'est à 30 mètres qu'a eu lieu le drame. C'est le chemin qu'empruntent les enfants le matin quand ils reviennent à l'école. Et depuis, donc il y a des camions de police qui assurent la sécurité des enfants. Et c'était extrêmement émouvant de voir que nos enfants allaient dans une école sécurisée où les attendaient les policiers.
Il y avait déjà ces caméras il y a 6 mois ?
Oui, il y avait déjà des caméras, mais le dispositif de sécurité a été renforcé après la tuerie.
Il y avait déjà des caméras puisque le crime de Mohamed Merah a été filmé, en long, en large, devant, à l'entrée et également derrière quand il a pénétré dans la cour de l'école. Et puis il y a aussi des permanents qui sont là tout le temps, y compris la nuit parce qu'il y a un internat.
Pendant des semaines, il y a eu des centaines de bouquets de fleurs avec les photos des enfants qui étaient sur la palissade là. Et où tous les jours, des gens venaient amener des petites bougies. Il y avait des témoignages d'enfants du quartier, des gens de la ville qui venaient déposer leur témoignage, un petit mot, une photo, un dessin, des peluches. Il y en avait tout le long de la rue. Il y avait des milliers de témoignages. Je partais justement pour une journée professionnelle à Nantes et j'étais dans l'avion et à l'atterrissage j'ai rallumé mon portable et il y avait un message un peu alarmant qui me disait « rappelle vite, il s'est passé quelque chose de dramatique à l'école ». Donc j'ai rappelé tout de suite et puis j'étais dans un état, j'ai compris que c'était catastrophique. Et j'ai essayé de rappeler le père de mes filles. Et j'ai eu Clara qui a poussé un hurlement. Je n'oublierai jamais, qui m'a dit « Maman, t'es où ?» Et ils m'ont raconté ce qui s'était passé. Et donc j'ai tout suivi dans un bar branché sur Internet, tout ce qui était en train de se passer. Et donc j'ai vécu à distance, ce qui était pire encore, parce que je ne pouvais pas rentrer pour être avec eux, quoi.
J'étais avec mes deux filles dans la voiture, on est parti comme d'habitude un petit peu en retard. Donc j'ai déposé Clara, on a continué avec Julia et quelques instants plus tard, très peu de temps après, on avait à peine passé une rue ou deux depuis Haute-Sarre. On a eu un coup de fil effectivement affreux, un coup de fil affreux que moi non plus j'oublierai jamais, de Clara en disant on nous tire dessus, il y a des coups de feu, il y a des morts, ne viens pas, tu vas te faire tuer aussi. Donc on est revenu tout de suite. Malgré ses injonctions, on lui a dit de se mettre à l'abri tout de suite. Et j'ai vu ce que tout le monde sait, c'est-à-dire des corps, des victimes, des parents dans le désespoir. Enfin, j'ai vu, voilà, c'était atroce. Et ma fille l'a vu. Mais effectivement, oui, on a passé une matinée qu'on n'oubliera jamais, ça c'est certain. Oui.
Clara est arrivée à 10 mètres apparemment de l'école, elle a entendu des coups et elle s'est dit « tiens, c'est des pétards, c'est bizarre ». Dans sa tête, je crois qu'elle a vite, elle m'a dit qu'elle avait pensé à Montauban et elle s'est dit « il se passe quelque chose de grave ». Et sur le passage, il y avait une petite gamine qui allait à l'école, elle l'a attrapée par le bras, elle a voulu rentrer dans un jardin, se réfugier chez une dame à 50 mètres, là même pas. Et la dame les a chassés en leur disant « sortez de mon jardin ». Donc elles se sont recachées entre les voitures. Et là, elle a vu Mohamed Merah qui passait devant elle. Et ce que m'a dit Clara, c'est « maman, j'ai croisé son regard. Je ne comprends pas pourquoi nous, il ne nous a pas tués ».
Elle a vu carrément ce type avec une arme. Elle a vu l'arme dans ses mains. Elle a vu remonter sur son scooter. En fait, elle a croisé son regard. Voilà, c'était une des choses les pires qui pouvaient lui arriver.
J'étais chez moi. Je m'apprête à prendre ma voiture. Ma femme reçoit un coup de fil lui disant « il faut surtout pas aller à l'école ». Et en fait, c'était la maman d'une gamine qui était à l'école, qui s'était recluse et qui avait appelé sa mère, complètement paniquée, et qui donc a averti ma femme pour que mon fils ne se rende pas en classe. Or, il était parti. Naturellement, moi, je prends mon courage à deux mains, je laisse tout tomber, en panique, je me précipite à l'école. J'ai pas de portable, j'ai rien, et je vois pas mon fils, je m'approche, je dévisage les corps des enfants pour voir si c'était pas mon fils qui était dessous. Il y avait l'adulte, deux enfants par terre, inanimés, qui étaient recouverts de leur manteau. Mais c'était pas mon fils. Donc je continue, je me rends à l'école, je me rends à la synagogue, et là, bon, des cris, des visions d'horreur. Je voyais un enfant de 15 ans en train d'essayer de ranimer une petite qui était déjà partie. Je cherchais mon fils. Et bon, par la grâce de Dieu, mon fils a vu partir le scooter, mais en définitive, il y avait une voiture qui a fait marche arrière et qui a pris tous les enfants qu'elle pouvait. Donc mon fils s'est trouvé dans la voiture.
On s'est vu d'ailleurs.
On s'est vu à l'école.
On a passé ce moment, une partie de ce moment ensemble, tous les deux. Et c'était quelque chose. Je me souviens me souviens de ta panique, de ton angoisse.
La réalité a dépassé toutes les fictions qu'on aurait pu tourner ce jour-là.
Donc là, on franchit le portail de l'école. Donc au-dessus, il y a écrit en grandes lettres blanches « Lycée Haute-Zahra Torin ».
Là, c'est la partie administrative, au fond, le réfectoire et l'internat. Et ici, à gauche, vous voyez la synagogue. La singularité, c'est que juste avant le début des classes, effectivement, les enfants ont ce qu'on appelle du « Kodesh », c'est-à-dire l'apprentissage un peu de nos lois, de la religion juive. Il y a une partie « Tefila », c'est-à-dire « synagogue ». Et puis ensuite, les enfants démarrent leurs cours de maths, d'anglais, d'espagnol, les cours de sport, tout à fait normaux, hein, classiques.
Ici, on est vraiment dans un lycée normal, un collège normal. Les profs ressemblent à tous les autres profs. Le programme est celui de l'éducation nationale. Et l'établissement est sous contrat, d'ailleurs, avec l'éducation nationale.
Et combien d'élèves au total, ici ?
Environ 200. Environ 200 élèves.
Je peux simplement dire aussi que moi, à Marseille, j'ai eu un enseignement juif jusqu'en 6e. J'ai trouvé ça très bien, très structurant, donc je voulais la même chose pour mon fils. Et j'ai pris le choix d'amener mon fils ici, dans cet établissement, pour une simple raison, c'est que la carte scolaire m'indiquait ou m'obligeait en définitive à aller dans un établissement à proximité, qui est un établissement où la mixité est plus qu'importante. C'est-à-dire que il y a des incidents où il y a des cités tout autour aussi, hein, donc la cité Amourou notamment, où ça se passe moyennement. Et donc, j'avoue que j'ai eu peur d'amener mon fils à s'inscrire dans cet établissement, avant même que ça se passe. Hein. Les Juifs sont pris à partie. Je dirais que le conflit israélo-palestinien se transporte dans les cours d'école. C'est pas faux que de le dire. Enfin, moi, j'ai en tout cas pris la décision d'inscrire mon fils à Ozar. Et aujourd'hui, ma fille. Beaucoup de parents ont réagi comme nous. Au lieu de se dire, on va les enlever. Parce que pour se chasser de notre tête, si vous voulez, ce qui s'est passé, au contraire, on a pris le parti de conforter à la fois le directeur et à la fois de dire, non, il faut que cet établissement survive à ce qui s'est passé.
C'est vrai qu'un lycée comme celui-là, c'est un outil de transmission des valeurs du judaïsme qui est très beau, parce qu'il est ouvert. C'est ce qu'a souligné le rabbin, d'ailleurs, Gilles Bernheim, à la suite du drame qui s'est passé ici. Il a dit, on a tué des enfants dans un endroit où on apprend l'amour de l'autre et l'ouverture. Je m'en souviendrai tout le temps de ça, de cette phrase aussi, parce que j'avais trouvé déjà, tout seul, qu'on y enseignait déjà ces valeurs.
Julia, toi, tu as 17 ans. C'est ça, tu fais tes études à Toulouse, t'es en terminale. Comment tu vis au quotidien en tant que jeune juive à Toulouse après ce drame, 6 mois après?
Ça faisait un petit peu penser à une période de guerre, je trouve. Enfin, nous, dans notre lycée, par exemple, on a été complètement confinés à l'intérieur, on pouvait même plus sortir. Ceux qui fumaient, ils pouvaient fumer à l'intérieur du lycée. Ceux qui étaient externes, il fallait qu'on se dépêche de rentrer chez nous. Le métro, ça faisait super peur et tout. En fait, on s'attendait tout le temps à des trucs, on était méfiants en permanence, ce qui est assez bizarre. Dans une ville plutôt calme, où il fait beau comme ça, c'est bizarre. Ouais, après, ça s'est un peu tassé, on a repris une vie normale. D'ailleurs, ouais, ça s'est fait plutôt vite, je trouve.
Mais juste avant les événements, la plus jeune de mes deux filles, quand elle prenait le bus pour se rendre à l'école, parfois elle me téléphonait dans le bus en me disant « Maman, il y a une bande qui nous embête ». Parce que comme elles sont habillées avec des jupes un peu plus longues, parce qu'il y a un code vestimentaire, si vous voulez, pour cette école, et ils les identifient. Et des groupes de jeunes les ont molestées dans le bus. C'était
des... Et en plus, ça pouvait rien faire, quoi. Parce que trois filles contre, effectivement...
Des bandes de garçons.
Plein de garçons.
Et là, c'était clairement leurs origines qui étaient visées. C'est-à-dire, c'était des groupes de garçons des cités d'à côté. Et j'ai même été obligée de lui dire, hein, écoute, demain, je viens prendre le bus avec toi. Et si jamais t'embêtes, je vais m'interposer, quoi. Mais comme elle avait tellement peur des représailles, elle m'a dit, non, ça va se calmer, ça va se calmer. Et parfois, elle changeait l'horaire de son bus ou elle demandait à son père de l'accompagner. Donc, quand on dit que factuellement, il se passe des choses, je crois qu'il faut vraiment plus et arrêter de se voiler la face. Il se passe des choses.
Une expérience comme celle du 19 mars, c'est normal que ça mette... de l'inquiétude dans les cœurs, quoi. On ne peut pas vivre comme avant. C'est normal qu'on se protège. Il y a beaucoup de parents d'élèves qui ont envie que la protection soit encore plus renforcée qu'elle n'est. C'est des choses qu'il faut entendre et qui sont obligatoires pour nous.
Enfin, au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, là, le vrai questionnement qu'on a tous en commun, c'est comment essayer de revivre ensemble. Il faut qu'on se reconstruise. Et je pense qu'il faut qu'il y ait... de la part des autorités religieuses, des vrais actes de rapprochement qu'elles prennent parti, quoi. Enfin, on attend des gestes forts, quasiment militants, pour dire, attends, l'islam, c'est pas ça, quoi. L'islam, c'est vivre ensemble, c'est aimer l'autre, c'est se retrouver sur des valeurs communes et établir des discussions, des liens. On va pas masquer le fait qu'on assume le judaïsme de manière ouverte. Enfin, aujourd'hui, on en vient même effectivement à le refouler. Je vois mon fils qui part à l'école et qui mécaniquement met sa kippa pour faire 200 mètres. Je me vois en train de lui dire, enlève-la. Je serais plus en sécurité si tu l'enlevais pour aller en classe. Alors qu'on est à 200 mètres. C'est des réflexes que j'ai moi en tant que parent. Vous voyez, mon fils ne les a pas. C'est-à-dire que je pense que les enfants ont déjà peut-être mieux surmonté ça que nous. Nous, on est des juifs d'Afrique du Nord. Ce qui est terrible à imaginer, c'est qu'on a vécu avec eux pendant 200 ans. On avait des relations complètement apaisées quand on était au Maroc ou en Algérie pour certains. Et que c'est en France qu'on a visiblement le plus de mal à vivre avec des musulmans. C'est incroyable, quoi. Ce renversement de l'histoire, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
Il y a aussi d'autres voix qu'on peut entendre que les nôtres. Par exemple, Edgar... qui est un ami de longue date.
Je suis parent d'élèves, je me suis un petit peu intéressé à ce lycée. Et en fait, moi, mon questionnement, en fait, il est très clair, c'est quelle est aujourd'hui la place des Juifs en France, malgré tout ce qu'on peut répéter politiquement, les Juifs, restez là, vous êtes dans votre pays, etc. Moi, je pense absolument pas, je pense qu'il n'y a plus de place pour les Juifs en France. Encore hier soir à Sarcelles, un jeune Juif s'est fait tabasser parce qu'il allait à la synagogue avec sa kippa, gratuitement, par deux individus, comme on dit, parce que maintenant, il y a un langage très policé, donc soit des individus, soit des jeunes de banlieue, soit des jeunes qui ont des problèmes sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, on nous ferait clairement comprendre qu'il n'y a plus de place ici pour les Juifs en France. Jusqu'à présent, j'étais effectivement français avant d'être juif, et de plus en plus, je suis juif avant d'être français. C'est-à-dire qu'on me montre aujourd'hui du doigt, tous les jours, hein, et on me montre qu'aujourd'hui, je suis plus juif en France que français et juif. J'ai un exemple assez simple, il y a 25 ans, Carpentras, uniquement des tombes avaient été vandalisées. Il y avait 60 000 personnes dans les rues avec le président de la République en première ligne. 25 ans après, il y a eu le terrible attentat d'Otsara Torah. Il n'y avait que 6 000 personnes dans la rue. Et alors qu'il y a eu 4 morts, 3 enfants et un père de famille.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, bien que ce soit extrêmement tranché par rapport à moi. Moi, je me sens encore davantage français que juif. Par contre, je veux dire que j'ai appris... il n'y a pas longtemps, qu'il y a effectivement beaucoup plus d'incivilité qu'avant. Je parlais avec tout simplement le rabbin de Toulouse, qui est un jeune rabbin, qui est un type qui n'a pas 30 ans, qui a vraiment un faciès de rabbin. Il a une barbe, il a une tête de rabbin. Ben, tous les jours, il se fait insulté, tous les jours il se fait stigmatiser. Il peut parce que c'est un garçon courageux et qu'il continuera.
Moi, vous savez, je suis médecin, je travaille à Bagatelle. Hein. J'ai une clientèle essentiellement maghrébine qui m'adore et que j'adore. Ça sert à rien de généraliser et dire que c'est parce qu'il y a des problèmes dans les quartiers qu'il y a de l'antisémitisme. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Il faut aller chercher beaucoup plus profond. Il faut chercher beaucoup plus loin. Je vous donne un exemple. Je suis complètement atterré par ce que j'ai entendu de notre ministre de l'économie, je crois, Moscovici, qui dit qu'il y a des fonds qataris qui vont venir pour développer les cités. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de vendre notre pays hein, à des fonds qataris. Et quel contrôle vous allez avoir là-dessus hein? C'est parce qu'il y a un problème social, alors la France n'est plus capable de gérer ses problèmes sociaux. Ils vont chercher des Qataris pour gérer les problèmes sociaux. Ils ont déjà du mal à cadrer les imams qui viennent d'Arabie Saoudite, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Où on est? Mais où on est? Si c'est ça, être français, ben moi j'ai un vrai problème. Moi j'espère faire mon alia très rapidement, c'est-à-dire au mieux à la fin de cette année, au pire dans 2 ans.
Et retourner vivre en Israël.
Aller y vivre.
Chez moi, avenue de Lavor, à côté de pas de, du lycée. C'est l'heure de déjeuner, mais bon, le dimanche, on déjeune un peu plus tard. C'est vrai, on évoquait la marche blanche, une marche incroyable, quoi. On est parti quasiment du centre-ville, et le cortège a grossi, donc bien évidemment pas que des juifs, pour arriver jusque devant le lycée. Il y avait juste une banderole avec les noms et les visages des victimes. Il fallait savoir ce qu'on écrivait sur cette banderole, en hommage aux victimes, de qui, de quoi. Le président de la communauté a tout de suite demandé à ce qu'il soit fait état du terrorisme islamiste, et c'est ce qu'on a fait, on l'a écrit. Suivant la phrase d'Albert Camus, à mal nommer les choses, on ajoute du malheur au monde. On aurait pu penser que ça ne changeait rien, mais si, ça change beaucoup. C'est une vraie question. Qui a fait ça? Pourquoi? Au nom de quoi? Il faut le dire.
Ce qui a été notoire également, c'est que c'était un drame national. Ce n'est pas simplement le drame des Juifs ou des gens qui ont été touchés par cet événement. On l'a vécu comme un drame national. Et c'est un combat que la France doit prendre à son compte pour pouvoir réellement prendre à bras le corps le souci d'intégrer ses propres ressortissants, tout à fait. Alors l'école est certainement un terrain d'intégration. Moi j'apprécierais qu'à Otsara Torah on ait, je dirais, pourquoi pas, des gens de certains quartiers qui viennent ne serait-ce que connaître. Voilà Otsar, voilà, c'est pas simplement un lieu de mort, c'est un lieu aussi où on prie, c'est un lieu où on... Vous avez les mêmes programmes que ceux qu'on vous enseigne. C'est ça l'intégration aussi, c'est aussi se connaître, se comprendre. Mais au-delà de ce qui peut paraître comme un peu utopique, hein, il faut aussi combattre. Le combat contre l'intégrisme islamique, c'est un combat. On ne peut pas simplement combattre avec les mots. C'est plus possible. Il faut combattre différemment, pas avec les armes de la démocratie. Parce que c'est une gangrène, parce que c'est le cancer de la démocratie. Il faut à la fois traiter par la violence ce fléau, et à la fois éduquer toutes les générations avec les armes que nous avons, et qui sont des fantastiques machines d'intégration. Nous-mêmes, je le disais, moi je suis le produit de l'immigration. Avec 40 ans, j'étais au Maroc, et je suis venu en France, et on s'est intégré, on a respecté le pays dans lequel on a été accueillis, et aujourd'hui on lui est beaucoup reconnaissant. Il faut que notre machine intégrée continue à travailler.
On parle d'intégrisme islamique. Aucun musulman, jusqu'à présent, à part de rares exceptions comme l'imam de Drancy, par exemple, n'ose se lever pour dire que ça ne va pas. Il faut qu'ils apprennent à dire haut et fort que l'islamisme intégriste, c'est pas eux. Il faut qu'ils disent, c'est pas nous. Nous, on veut autre chose. Et je pense que, en se basant sur ce qu'a souhaité le ministre à l'inauguration de la mosquée de Strasbourg, pourquoi pas des imams qui soient d'origine française, de manière à ce que on ait quand même une culture et un terroir français qui ressorte. Il faut qu'ils osent dire ce qu'ils ont envie de dire, c'est-à-dire on veut la paix. Mais il faut savoir le dire.
Je voudrais juste reciter Latifa Imziaten, avec qui j'ai eu une rencontre pleine d'espoir.
Alors je précise que Latifa Imziaten, c'est la maman d'Imad, le premier militaire qui est tombé sous les balles du tueur de Toulouse et de Montauban.
Effectivement, une figure comme la sienne peut être une voie d'accès vers des populations avec qui c'est devenu difficile de dialoguer. C'est la mort d'enfants qui a fait que j'ai rencontré Latifa Imziaten. C'est la mort de ses enfants, mais qu'au moins, ça serve à ce qu'on commence à poser des jalons efficients pour l'avenir de nos enfants.
Oh, tell me, David, what have you done? Where has Bathsheba's sweetheart gone? What's taken over? When is enough? When the going gets lonely, I guess the lonely get rough. Oh, times have changed since you became king. Since that boy with the flute that played with a sling. You still fight from a distance, that sling in your hands. If anyone gets near, you don't give them a chance. Oh, pray they have left you here.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et notre retour sur du vendredi avec retour justement à l'école Ozar Hatorah. Un reportage diffusé à l'occasion du procès du frère de Mohamed Merah, Abdelkader Merah, qui s'est ouvert le 2 octobre, je le rappelle, et qui va durer un mois. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 17 octobre 2012. Elle était signée Jérôme Sandler, réalisée par Alexandra Malka, mixée par Jean-Michel Benoît. Le tout avec un coup de main aujourd'hui de François Connac. Merci à Jeanne, à Pierre, à Harry, à Edgar, à Patrick, ainsi qu'à Nicole Yardeni. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Marguerite Delassa, c'est notre stagiaire.